Alors, on est à divergence, on est sur divergence, comme on dit à la radio. Et je suis avec Manuela Parra, qui nous fait le plaisir de nous répondre au téléphone pour un événement qui va se dérouler donc le 21 juin, jour de la fête de la musique d'ailleurs, à 15h30 à la médiathèque Émile Zolta. C'est une entrée libre. Alors, racontez-nous, Madame Parra, qu'est-ce qui va se passer autour de lectures qui viennent d'un livre que vous avez fait paraître?
Oui, eh bien, écoutez, d'abord, bonjour, Olivier. Merci de me recevoir.
Au téléphone, pour une fois, je suis désolée. Hein, c'était un peu court.
Je suis très heureuse pour parler justement de ce que l'on va proposer le samedi 21 juin à 15h30 à la médiathèque centrale Émile Zola, en partenariat avec la médiathèque, évidemment. On va proposer des lectures de récits, des frontières et des femmes, qui d'ailleurs en octobre a eu le prix du livre pyrénéen, Binaros, et en octobre dernier, et donc j'ai eu la joie de ramener les femmes qui avaient passé ces frontières dans des conditions terribles.
Terribles, hein. On en avait parlé déjà à Divergence, me rappelle, c'était terrible.
Oui. Et je les ai ramenés avec honneur à la frontière. Donc c'était un moment très émouvant. Et donc on va partager ce moment émouvant avec deux comédiens qui liront avec moi. Donc Alexandre Pratelon, qui est comédien, marionnettiste, metteur en scène, qui est à Lunel, qui a récemment d'ailleurs à la médiathèque, dans le cadre des rencontres, et puis à Lunel, fait un spectacle, hein, Le Grand Voyage de Georges Samprun, et avec Zia, qui est comédienne, qui est lycéenne, Zia Pratelon, qui est au lycée Jean Monnet à Montpellier, et qui a son actif, a signe déjà quelques romans, des nouvelles, voilà.
Elle avait participé avec vous à quelque chose qui s'était déroulé à Lunel, il me semble, hein, de mémoire.
Lunel, à Balaruc, et là on va encore jouer ensemble, on va lire ensemble au Mémorial de Rivesaltes en octobre, et je pense pour les rencontres franco-espagnoles en novembre sur le prochain livre.
Alors,
que je sors.
Je vous rappelle, Manuela Parra, que vous viendrez pour une grande émission à cette occasion, je vous rappelle.
Ah oui, j'espère.
C'est programmé.
Une émission. Voilà, et puis c'est quand même la fête de la musique, et en fait, on est habitué à donner ce concert lecture avec Iyad Radvan, hein, qui est un grand musicien de oud classique, qui est d'ailleurs au conservatoire aussi de Montpellier, qui a quand même eu un certain nombre de prix, hein, notamment qui a travaillé avec Monica Passos. Qui a fait aussi comme directeur artistique et oudiste dans le projet Mozart l'Égyptien.
Enfin, il a étudié au conservatoire du Caire pour commencer, je crois, dès l'âge de 5 ans.
Oui. Et en fait, il donne effectivement, c'est quand même quelqu'un de très renommé qui a gentiment accepté de se prêter à notre jeu sur les frontières des femmes, parce que c'est quand même un sujet qui le touche. Et voilà. Et puis, il sera aussi en collaboration et en complicité, on dira plutôt, avec Baptiste Gilino, qui est un saxophoniste de jazz, qui a travaillé dans beaucoup d'endroits et qui a créé la musique de pour ses récits.
D'accord.
Qui créera la musique sur le prochain spectacle que nous donnerons sur Lettres aux absentes.
C'est un régional, hein, Baptiste, je crois. Il est du côté de Balaruc.
Il habite à présent à Balaruc. Oui. Il fait beaucoup aussi d'improvisation, donc c'est assez formidable. Et puis, il a une autre corde à son axe, il joue du sarod, qui est un instrument indien qui l'a fait venir d'Inde et qui donne des sons assez ou percutants ou mélodieux. Mais l'intérêt d'avoir ces deux musiciens, c'est qu'en fait, ils sont en complicité et qui veulent à tout prix, si vous voulez...
Ils illustrent un petit peu les textes, hein, on peut dire ça comme
voilà,
ça.
Ouais, ou... musicalement, oui. Et puis ils tiennent compte de nos voix, etc. Donc, ben, moi, je serai donc aussi, en tant que lectrice, de ces textes qui me touchent, parce que ce sont des femmes qui ont témoigné, et avec leurs témoignages, j'ai fait des récits. Voilà.
Alors, pour les auditeurs, rappelez-nous donc en quelques mots, c'est difficile en quelques minutes, mais en quelques mots, c'est qui ces femmes? D'où elles viennent? Allez-y.
Alors, ce sont des femmes qui, quand elles ont traversé des frontières, donc ce sont des femmes qui ont traversé, bon, effectivement, au niveau de l'exil depuis l'Espagne, l'exil économique. Mmh. Comme Carmen, comme aussi Susanna qui a traversé la frontière au moment de la retirade en 39, la frontière espagnole. Mais il y a aussi, j'ai voulu me faire des parallèles avec des témoignages que j'ai traduit en récit de jeunes femmes qui traversent la frontière aujourd'hui.
Aujourd'hui, il y a un rapport, vraiment un rapport.
Hein. Ouais. Un rapport des femmes qui traversent les frontières depuis la Libye et des jeunes filles, quoi, et la manière dont, si vous voulez, elles appréhendent ce monde étranger en se disant, bon, ben, finalement, c'est vrai que l'exil n'est jamais trop consenti dans ces cas-là, quand on est des réfugiés et qu'on est obligé de partir à la hâte.
On est forcé de tout lâcher et on se retrouve dans ce pays qu'on ne connaît pas.
Voilà, avec la langue qu'on ne connaît pas, avec la suspicion, avec la violence parfois, notamment comme Naya, qu'elle a subi en venant d'Éthiopie, en passant par la Libye. Voilà, puis il y a aussi une petite Emma qui, en 1942, était partie de Berlin.
Oui.
Pour échapper au nazisme et qui est allé jusqu'en Palestine. Bon, il y a d'autres Espagnols qui ont passé les frontières plus tard pour rejoindre le père et qui ont passé de manière clandestine la frontière. Et c'était dans les années 58, la répression qu'elles ont subie en Espagne avant de passer la frontière. Alors, ce n'est pas qu'un travail mémoriel, c'est aussi pour nous rappeler, hélas, que les dictatures et...
Ça continue, et Manuela, ça continue, j'ai bien peur. Hein. J'ai bien peur que dans notre vaste monde, on ne soit pas libéré dans tous les sens du terme de ces horribles dictatures.
On le voit aujourd'hui, et c'est terrible, quoi, parce qu'on se dit, bon, à quoi ça sert ce que l'on fait, puis finalement, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer, et surtout s'adresser aux jeunes.
C'est pour ça qu'il faut qu'ils aillent écouter, qu'ils aillent voir, et puis ils vont se rendre compte que tout ça résonne tout à fait maintenant, aujourd'hui.
Oui.
Aujourd'hui, et je dirais aujourd'hui, et surtout pour demain, il faut regarder devant.
Oui. Et pour eux, il faut former pour eux la société de demain en leur donnant les clés de ce que nous on a comme expérience, quoi. Mais en sachant que le parcours est difficile.
Oui, c'est douloureux. C'est très douloureux. Particulièrement pour ces femmes dont vous racontez ces histoires. Hein. Ces histoires qui ne sont pas d'histoire, sont dans l'histoire. Hein. Dans l'histoire, elles sont là. Et c'est bien plus parlant souvent que des grandes leçons d'histoire au niveau académique, au niveau universitaire. Là, on se rend compte que ce sont des personnes. Ce sont des personnes. Elles ont vécu des choses qu'on a besoin de savoir pour prolonger notre mémoire, pour nous ne pas oublier. C'est exactement votre travail, hein, je crois.
Je suis très impliquée dans ce travail. Moi, je pense, quand je lis, je pense à toutes celles qui m'ont accueillie ou celles qui étaient mortes, mais dont on m'a donné le témoignage très émouvant, comme Hermine. Hein, et toujours une gamine de 15 ans qui courait les chemins en Ariège pour transporter des messages aux guerrieros des Espagnols résistants qui étaient le maquis et qui disaient mais je l'ai fait, j'avais pas peur, non, parce que ce que j'ai fait, tout le monde l'aurait fait. Voilà. Donc, si vous voulez, je trouve que ces femmes sont exemplaires.
Exemplaires, mais comme souvent les femmes à travers les mouvements de résistance, hein, elles ont toujours eu des rôles, pas forcément tout premier rang, tout premier plan, pardon, mais elles ont été indispensables. Combien d'histoires il y a, notamment dans la résistance française, hein, de femmes résistantes. Oui. Et notamment, alors là, je rappelle aussi, et ça, c'est pas une spécialiste comme vous que je vais l'apprendre, mais peut-être à certains auditeurs, qu'il y a eu beaucoup aussi d'Espagnols qui ont rejoint la résistance française.
Bien sûr. Mais on citera Mercedes Nines Targa, on citera Herminia. Voilà, enfin, je veux dire, et puis, c'est des femmes qui avaient le même combat, le disaient, c'est elles qui, elles m'ont appris beaucoup, ces femmes, elles m'ont appris dans le faire, mais aussi de ne pas avoir la rage.
Voilà.
Et quand celles qui m'ont raconté, en fait, avaient vécu des choses atroces, mais elles avaient bien rebondi. Mmh. Et parce qu'elles pensaient que c'était normal de se battre pour... Elle pensait que la liberté devait être au-dessus de la vie, et pour emprunter ses propos à Georges Samprun.
Oui.
Et elle disait aussi qu'on porte la liberté en soi, quelle que soit la frontière, quel que soit l'endroit où on est. Donc la liberté n'a pas de frontière. Et ça, c'est ce qu'elle disait tout le temps, quoi. Et donc ça apprend beaucoup.